La boîte à musée. Une émission réalisée par Erel Pinel avec le concours de Ahmed Azouz et Thierry Tucriel. Vous êtes à l'écoute de Radium 89.7 sur la FM.
Je crois que c'est quand même dans l'histoire de la France et dans l'histoire du monde finalement quelque chose d'important. Pour Albi, c'est important d'avoir un personnage comme cela qui est connu, qui est bien connu, beaucoup plus peut-être quelquefois qu'Albi dans certaines régions du monde. Tous les Australiens qui passent à Albi viennent voir le musée La Pérouse.
Henri Colombier, président de l'association La Pérouse.
Traces de La Pérouse à travers le monde et dont nous essayons de les perpétuer aussi. Voilà, et puis son humanisme quand même reste pour nous quelque chose d'important à faire passer auprès des visiteurs et auprès des enfants notamment.
Nous sommes donc au musée La Pérouse à Albi, un musée installé dans un ancien moulin albigeois qui retrace l'histoire et les découvertes de ce grand navigateur originaire d'Albi. Michel Vaut, guide au musée La Pérouse.
Jean-François de Gallo, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait lorsqu'il naît donc à Albi, au château du manoir d'Hugo, en 1741. Fait ses études au collège des Jésuites et c'est sous l'influence d'un de ses cousins, des cousins de la famille de Gallo, qui est officier dans la marine royale, qui est un noble lui aussi, puisque c'est Clément Taffanel de la Jonquière, qui habite dans la région et qui est donc parent avec De Gallo et qui vient souvent au Go et qui raconte sa vie d'officier de la marine royale à Brest. On pense donc que c'est lui qui a éveillé la vocation de Jean-François De Gallo. Puisqu'à 15 ans, il entre à l'école des gardes de la marine de Brest. Il prend le nom de La Pérouse. Il va être un bon marin, un bon militaire. Il va gravir très vite tous les échelons, puisqu'à 23 ans, il sera déjà enseigne de vaisseau. À 36 ans, lieutenant de vaisseau. Et à 40 ans, capitaine de vaisseau. Il a une brillante carrière lorsque, au cours de la guerre d'indépendance des États-Unis, il est chargé d'une mission très importante pour lui qui va le valoriser. Cette mission, c'est d'aller dans la baie d'Hudson. Dans la baie d'Hudson, il y a des forteresses, des forts dans lesquels les Anglais stockent leur fourrure. Pour ennuyer les Anglais, on va aller par surprise détruire leur forteresse, brûler toute leur fourrure, détruire leur construction. Et c'est une mission qui est donc confiée à La Pérouse, qui va aller avec une équipe de 3 bateaux, dont faire cette mission très importante, j'insiste bien, parce qu'ils n'ont pas de carte. Dans des conditions très difficiles, on est au niveau du cercle polaire, hein, donc l'amplitude d'intervention est très courte, il faut arriver dès que c'est débloqué, le passage est débloqué, il faut repartir avant d'être bloqué par les glaces. Il va accomplir sa mission, détruire les forteresses, avant de partir, laisser aux vaincus des munitions et des vivres. Et il rentrera donc ensuite avec ses équipages en mauvais état, parce que déjà beaucoup sont malades du scorbut. Eh oui! Il rentre et cette mission qu'il a donc accomplie vraiment très bien, qui a montré ses qualités de marin et surtout ses qualités généreuses et d'humanité, vont plaire à quelqu'un qui cherche justement, maintenant que la paix est revenue, à faire un grand voyage. Cette personne, qui est au courant d'ailleurs de ce qui s'est passé dans la baie d'Hudson, c'est le roi de France. Louis XVI va donc le choisir comme le chef de l'expédition qu'il veut monter, cette expédition qui va surtout se dérouler dans le Pacifique.
Au départ, c'était une expédition qui avait des buts qui étaient fixés par le roi. Il y en avait plusieurs. Il y avait des buts commerciaux. C'était par exemple voir s'il y avait un commerce possible de fourrure entre notamment l'Amérique du Nord et la Chine. Vous savez, les Anglais monopolisaient un peu ce commerce qui leur rapportait beaucoup. Ils avaient des comptoirs en baie d'Hudson. Voilà. Et vous savez que pendant la guerre d'indépendance américaine, la Pérouse a été chargée d'aller attaquer les forts de la baie d'Hudson. Une opération d'ailleurs qui avait bien réussi. Et ces fourrures étaient vendues notamment en Chine très cher. C'était un commerce très lucratif à l'époque. Et donc on voulait voir si on ne pouvait pas établir des comptoirs commerciaux en Amérique du Nord, mais côté Pacifique, côté Ouest. Voilà. Entre autres. Bon. Ensuite, il y avait sur le plan... sur le plan commercial, il y avait aussi... J'oubliais, c'est trouver des zones favorables à la pêche à la baleine. C'était très important la pêche à la baleine parce que l'huile de baleine était utilisée notamment pour l'éclairage. Alors, but politique aussi, il fallait montrer que la France était quand même une puissance importante et qu'on était capable de faire aussi bien que les Anglais. Évidemment. Et enfin, les buts scientifiques qui finalement l'ont emporté. Alors, à la fois sur le plan géographique, c'est-à-dire cartographier. Il y avait aussi un but important pour la PO, c'est voir si on pouvait découvrir un passage entre l'Atlantique et le Pacifique par le nord. Cook s'était attaché, s'était heurté aux glaces dans le détroit de Bering, et donc la Pérouse cherchait s'il n'y aurait pas un moyen de pénétrer à l'intérieur du continent par un fleuve, comme par exemple le Saint-Laurent côté Atlantique permet de pénétrer jusqu'au Grand Lac. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il s'est engagé dans cette fameuse baie, Lituya Bay en Alaska, là, où là aussi s'était produit un drame qui n'avait rien à voir avec les indigènes du coin, mais parce que deux chaloupes avaient coulé. Voilà, donc, et ensuite il fallait cartographier cette côte d'Amérique du Nord qui était assez mal connue, qu'il n'a pas très bien pu cartographier non plus d'ailleurs, parce qu'elle est très compliquée, je ne sais pas si vous avez vu les cartes, il y a des îles partout, et puis il y a des brumes extrêmement tenaces tout le temps, et c'est assez difficile à observer. Et puis une autre partie qui n'avait jamais été visitée par les Européens, c'est donc toute la partie qui se situe entre le Japon, l'île Sakhaline et la côte asiatique. Voilà, et là où il a vraiment cartographié des zones qui, si on regarde des cartes, je pourrais vous montrer des cartes. Avant la Pérouse, c'est le Japon, tout ça, c'est méconnaissable. Méconnaissable. Voilà. Et puis, il était chargé de cartographier ensuite d'autres parties en Australie, notamment la côte sud, mais malheureusement, il n'y est pas arrivé. Et puis, il y avait à situer certaines îles, puisque, comme on a dû vous le dire, c'était l'époque où, enfin, on savait déterminer, faire le point, c'est-à-dire déterminer la longitude, la latitude, bien sûr, mais ça, on savait le faire depuis longtemps, et la longitude avec une relative précision. Très important, ça, la longitude. On ne se rend pas compte aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait pas trop où on était. Hein. Bon, les expéditions qui partaient au XVIe siècle, comment faisaient-elles? Bon, ils connaissaient la direction dans laquelle ils allaient. Et ils naviguaient à l'estime, c'est-à-dire ils estimaient que... tel jour, ils avaient parcouru telle distance. La vitesse, on pouvait la calculer avec la corde à nœud, là. Et donc, ils estimaient qu'ils étaient à tel endroit. Mais c'était de l'estime. À latitude, ils arrivaient à se placer convenablement, mais à longitude, ils se trompaient, mais de façon énorme. Hein. Croix Mendana, entre le Pérou et les îles Salomon, ils s'étaient trompés pratiquement d'un tiers sur la distance. Parce qu'on ne pouvait pas tenir compte des courants, notamment. Qui vous déportait, etc. Donc c'était très compliqué. Et la longitude, c'était important parce que quand on découvrait une île, si vous étiez capable de dire où elle était avec précision, vous vous l'appropriez. C'était une question politique. Et donc à partir de ce moment-là, on a su faire les cartes et situer les îles. Avant, il y avait des îles, on les a découvertes 20 fois sans savoir que c'était la même. Et puis, alors, tous les savants qu'il y avait à bord, parce que c'était quand même... l'équipe la plus riche qu'il y ait eu de toutes les expéditions, y compris celle de Cook. La plus nombreuse, avec des gens extrêmement pour la plupart, disons, très, très portés sur leurs questions, de façon... Et toutes les découvertes qu'ils ont faites, dont les botanistes, tous ceux qui ont examiné les roches, les plantes, malheureusement, la plupart là, de leurs recherches ont disparu.
L'expédition de la Pérouse est une réplique des voyages de James Cook. Louis XVI cherche un Cook français. Et c'est la Pérouse qui sera notre Cook, si on veut, qui va donc poursuivre ce travail, combler les blancs qui restent encore sur ces côtes de l'immense océan Pacifique. Le voyage devait durer 4 ans. Il partirait avec 2 frégates, la boussole, dont le commandant serait la Pérouse, et une autre frégate, l'Astrolabe, dont le commandant serait Fleuriot de Langle. Fleuriot de Langle était avec la Pérouse à la baie d'Hudson. Les préparatifs se font évidemment à Brest, et le 1er août 1785, lorsque les vents sont favorables, les 2 frégates quittent donc le port de Brest.
Nous nous trouvons devant un immense planisphère peint sur bois qui retrace l'itinéraire du voyage de la Pérouse. Il a été réalisé par Jacques Liozu en 1941, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de la Pérouse.
Alors, on part de Brest. Des escales ici aux îles Canaries, je vais aller vite. Pas de difficulté pour la traversée donc de l'océan Atlantique. Première escale ici à Sainte-Catherine au Brésil. On va prendre beaucoup d'oranges. Vous êtes peut-être surpris par ce détour. Comme me disent d'autres élèves, ils ne vont pas droit. Ils ne vont pas droit, évidemment. Ils cherchent une île, l'île grande de la Roche. Elle n'y est pas. Sans difficulté, on va doubler le Cap Horn et on arrive enfin dans le terrain de jeu, j'allais dire, le Grand Pacifique, avec une escale ici à la Conception au Chili. On se ravitaille, ça se passe très bien. Et puis, on va vers l'île de Pâques. Louis XVI avait demandé une relâche à l'île de Pâques pour voir comment se portaient les gens, et on va voir les travaux scientifiques qui ont été accomplis à l'île de Pâques. Et il reste à peine un jour. Mais beaucoup de travaux seront faits. Et puis, commence alors, il décide, il change un peu l'itinéraire que lui avait proposé le roi, il décide donc de partir vers le nord pour accomplir sa mission scientifique, vraiment, qui était de cartographier toute cette côte et cette région où Cook était déjà passé, mais il n'avait pas eu le temps de faire les cartes. Escale en Alaska, au port des Français, ça s'appelle aujourd'hui l'Ituyabé. Premier drame de l'expédition, la noyade de 21 marins. Après, on va donc cartographier toute cette côte, et c'est très important, jusqu'à l'escale ici de Monterey, où on va prendre beaucoup de provisions, parce qu'on va traverser d'est en ouest, regardez, pendant 3 mois, plus de 13 000 km, jusqu'aux côtes de Chine à Macao. Et on passe ici, mais vous l'avez là, le détroit de la Pérouse, entre l'île de Sakhalin et l'île japonaise d'Hokkaido. Puis il file vers la presqu'île du Kamchatka. Une escale, on étudie, peuple, tout se passe bien. C'est la première fois depuis le départ qu'ils reçoivent quand même du courrier. L'escale du Kamchatka, et c'est à partir de là que le jeune Barthélemy de Lesseps, qui était venu comme interprète pour travailler ici en Russie, va être chargé par la Pérouse d'être le convoyeur, c'est-à-dire celui qui va ramener le courrier, les plans, les cartes et surtout le journal de bord. Alors attention, il part de là par voie de terre, à travers l'immense Sibérie, la Russie, jusqu'à Versailles, en un an, un peu plus d'un an. Il va donc rapporter tous ses documents qui me permettent de vous parler avec précision et rigueur de ce voyage. Parce que on continue avec les bateaux qui mettent le cap vers le sud. On fait une escale ici aux îles, dans les îles des navigateurs, l'île Samoa, aujourd'hui Samoa. Deuxième drame, massacre de 12 personnes, dont Fleuriot de Langle, le commandant de l'Astrolabe. On va chercher refuge ici. C'est la Nouvelle-Hollande à l'époque. On fait escale à Botany Bay. Cette région, Botany Bay, c'est aujourd'hui un quartier de Sydney. Et on écrit les dernières lettres. Les dernières lettres de la Pérouse, c'est... Il a plus de fatigue, certes. Il dit à son ami, tu ne me reconnaîtras pas, tu me prendras pour ton grand-père. Je n'ai plus de dents, je n'ai plus de cheveux. Donc vraiment, la fatigue, le voyage est dur. Un peu au nord de Botany Bay, dans la baie du port Jackson, sont installés les Anglais. Quelques jours avant qu'arrive la Pérouse, ces Anglais qui sont là et qui amènent une 800 environ bagnards qui vont être les premiers colons de la future Australie. Donc, c'est aux Anglais que la Pérouse va laisser les dernières lettres, son courrier et la deuxième partie du voyage. Parce que, regardez, après Botany Bay, nous avons un itinéraire en pointillé. C'est-à-dire que si je pouvais être sûre de ce que je disais jusque-là, à partir de là, point d'interrogation, ça sera un peu le mystère, ça sera parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Si, il a dû longer les côtes de Nouvelle-Calédonie, parce qu'on a retrouvé un graphomètre de Melbourne, etc. Et puis, c'est la fin, c'est-à-dire le drame et le naufrage, puisque une nuit, les deux bateaux, une nuit, au cours d'une tempête tropicale, les deux bateaux vont faire un naufrage, c'est-à-dire vont se briser sur la barrière de corail qui entoure l'île volcanique de Vanikoro. La boussole, bon, cassée, dématée, va s'encastrer par l'arrière, c'est-à-dire par la poupe, dans une faille de la barrière du récif de corail. L'avant va éclater et tout le monde va mourir, noyé, même la Pérouse. S'il y était. Quant à l'autre, l'Astrolabe va s'échouer dans la fausse passe. Il y a des morts, mais il y aura des survivants qui un jour vont aller dans le petit village de Payou. Et ça, c'est la tradition orale de l'île qui le raconte, validée par les découvertes archéologiques que l'on a fait récemment là. Donc il y a bien eu des survivants qui se sont installés et qui se sont peut-être barricadés, on parlera peut-être si ça vous intéresse comment ils ont été reçus, ce qu'on peut imaginer. Et la tradition raconte aussi que ces survivants, au bout de 5 lunes, en gros 4 mois et demi, seraient partis sur une embarcation qu'ils auraient faite en laissant 2 des leurs dans l'île de Vanikoro à Payou. Où sont-ils allés? Où sont-ils arrivés? Combien étaient-ils? Point d'interrogation. C'est le mystère la plus.
Alors, ces maquettes sont effectivement l'œuvre d'un membre de l'association qui n'était pas maquettiste de profession à l'origine, disons, mais qui a toujours été passionné par ça. Et donc, c'est lui qui a réalisé ces belles maquettes que vous avez, Vanikoro, bon, qui est une maquette extrêmement intéressante pour bien expliquer ce qui a pu se passer, la maquette du port de Brest et la maquette de la boussole qui lui a demandé 6 ans de travail. Et donc il y a un peu plus d'un an qu'elle est au musée maintenant. Voilà. Alors, il n'y a pas de plan de la boussole. Alors, tous les plans, la plupart des plans des bateaux de cette époque ont été détruits à la Révolution. Donc on sait par contre que ces bateaux faisaient partie de séries de bateaux, parce que la boussole n'a pas été construite, on vous l'a certainement dit ce matin, pour l'expédition. C'est un bateau qui a été réutilisé pour l'expédition. C'était la boussole et l'astrolabe, c'était des flûtes, c'est-à-dire des bateaux de transport qu'on a réaménagés spécialement pour l'expédition, en copiant un petit peu ce qu'avait fait Cook, parce que pour l'expédition, il fallait des bateaux qui aient une contenance suffisante, disons, pour les 3 ou 4 ans prévus de voyage. D'autre part, il fallait que ce soit des bateaux solides, on ne leur demandait pas de la vitesse. Et il fallait qu'ils aient un fond plat, par exemple, aussi, pour pouvoir aborder sans trop de dégâts, souvent, des côtes que l'on ne connaissait pas très bien. Alors, on savait quand même que c'était bâti à partir du plan d'un type de navire qu'on appelait le gros ventre. Et donc, à partir de là, et à partir ensuite de descriptions, de tous les écrits, et puis il a interrogé tous les spécialistes de la question, donc petit à petit, on a bâti quelque chose qui doit être quand même relativement près de la vérité. Tous les aménagements intérieurs, et puis imaginez tout ce qu'il fallait prendre, on a dû vous en parler ce matin, dans une telle expédition. Tout le matériel de rechange, il fallait du bois, des voiles, des cordes, etc., des ancres. Il fallait aussi quantité d'objets de troc, parce que là où on allait s'arrêter, il fallait pouvoir donner quelque chose. Or, il n'était pas question de prendre uniquement de l'argent, bien qu'il y ait... Il y avait une argent, quelquefois on parle du trésor de Vanikoro, on a effectivement trouvé des pièces à Vanikoro, vous en avez vu, parce que quand on s'arrêtait dans les ports, comme aux Philippines, au Chili, bien sûr, on pouvait acheter des choses, mais dans les îles autres ou sur les côtes nord d'Amérique du Nord, pas question de se servir de monnaie, donc il fallait faire du troc. Alors dans le Pacifique, le troc c'était essentiellement à base d'outils en fer, puisque les métaux étaient inconnus, et puis de tissus aussi, plus ce qu'on appelait les rassades, c'est-à-dire les perles, etc. Voilà. Alors ça représentait, c'était énorme, il y avait des milliers de marteaux ou de scies, etc. Hein.
Alors, on va faire le chargement rapidement. Vous n'êtes pas surpris de voir en fond de cale des barriques qui contiennent quoi? Alors, de l'eau, évidemment, c'est vital. Et le problème, ça sera souvent l'eau. La ration par an, par jour, c'était 3 litres d'eau. Un pour boire, le reste pour dessaler la morue, le lard, le bœuf salé, tout ce qu'on avait pris. On se lave avec l'eau de mer. Vous imaginez les brûlures, la peau et tout ce qui s'en suit comme des démangeaisons. L'eau, vous pourriez ajouter, messieurs, un peu de vin quand même. Il y en avait pour les marins tous les jours. Et un peu de tafia, bon, d'eau de vie, comme vous voulez. Du bois, eh bien, n'oubliez pas que tous les jours, il faut faire manger 110 personnes. On continue le chargement. Alors, puisqu'on était à la nourriture, des vivres secs. Qu'est-ce que vous mettez dans ces sacs comme vivres secs, comme légumes secs? Oui.
Des lentilles, ouais, des légumes.
Oui. Du riz, des fèves, des pois. Oui, enfin bon, tous les légumes secs. On va prendre aussi du biscuit, le biscuit de mer. J'ai parlé de la viande salée, mais qu'est-ce qui manque dans tout ce menu, ces régimes?
Des fruits.
Eh, vous connaissez bien le slogan.
5 légumes par jour.
Eh ben oui.
Ils en étaient loin, je pense.
Et ils en étaient loin. Et c'est bien pour ça qu'ils avaient quoi?
Le scorpion.
Sauf que, à l'époque, la Pérouse, ils voyaient les dégâts, mais on ne savait pas pourquoi, évidemment. Le scorbut apparaissait au bout d'environ 70 jours. Quelqu'un m'a dit que l'eau était importante, mais il y a aussi le pain. Alors, on va prendre du blé. Si on prend du blé, il va falloir le moudre. Chaque frégate était équipée de 2 jeux de moulins. Vous avez vu une pierre de moulin là-haut, on va en voir une autre aussi là, c'est très important. Vous avez ici les cabines des savants. Dans la demi-dunette ici, c'est les appartements, j'allais dire, de la Pérouse. C'est la salle commune, c'est la grande chambre, on va se réunir, on va parler, où les cartographes vont pouvoir étaler leurs feuilles et faire les cartes, faire les botanistes aussi. Ici, vous pouvez remarquer, ça va vous intéresser, regardez, qu'est-ce que c'est que je montre là? Vous en avez 4 là-bas aussi.
Les serres.
Voilà. Vous avez là plié, vous pouvez vous demander ce que c'est, ce sont les hamacs. Parce que pendant que les marins de tribord dorment dans leur hamac, ceux de bâbord sont en service et puis on inverse. Qu'est-ce qu'on peut voir? Ah oui, vous verrez aussi là ces petites caisses rouges. Enfin, petites, il y a quand même 200 poules qui sont transportées là. On prenait des vivres frais, on prenait quelques animaux qu'on accrochait au mât central. Bon, là, ils ne sont pas représentés parce que bon, c'est énorme. Le bateau était chargé jusqu'à ras-bord, et même avec ces plantes, ces animaux. Ici, dans les poules, mais dans le canot, là, ici, on avait des moutons, enfin, on avait des chèvres, des porcs, etc. C'était les premiers vivres frais que l'on allait consommer.
Journal, il raconte régulièrement cela. Vous savez qu'il avait des ordres très précis du roi Louis XVI. C'était en aucun cas de ne se servir des armes et donc d'éviter toute confrontation si possible. Bon, mais il était parti d'ailleurs dans cet esprit totalement, mais bon, ça ne s'est pas toujours passé comme ça, puisqu'il y a eu au moins un incident important aux îles Samoa, qu'on appelait à l'époque les îles des navigateurs, où il y a eu 11 morts, donc de marins, savants, notamment le capitaine du second navire de l'Angle, qui a été tué à coups de pierre, lancé par des frondes. Voilà, donc à l'île de Pâques, il n'y a pas eu d'affrontement directement, mais ils ont reçu quelques pierres aussi, ils se sont fait voler un certain nombre de choses. En Alaska, ils se sont fait voler aussi pas mal de choses. Alors bon, le vol, c'est une notion très européenne. Est-ce que c'était des vols? Est-ce que la notion de propriété était la même? C'est pas sûr. Bon. Voilà, et donc, au fur et à mesure de ce voyage, les idées de la Pérouse vis-à-vis du bon sauvage qu'il avait au départ ont évolué. Et dans ses dernières lettres, il dit que s'il avait à refaire un tel voyage, ben, il demanderait d'autres ordres que ceux qu'on lui a donnés. Mais bon, il n'était pas du tout d'accord pour, bien sûr, massacrer les gens, absolument pas. Bon, mais un minimum de défense. Parce que pour donner un exemple, aux îles des navigateurs, aux îles Samoa, quand après cette attaque, c'était descendu à terre pour chercher de l'eau. Donc c'est au moment de l'embarquement, les barques sur lesquelles ils avaient approché avaient du mal à repartir, c'était marée basse, et donc ils ont été attaqués. Et donc la Pérouse a dit, qu'est-ce que j'aurais pu faire? J'aurais pu, avec mes canons, tuer 500 personnes. Il y avait des pirogues tout autour, bon, mais aurais-je tué les coupables? Et à quoi cela aura-t-il servi? Donc ils préfèrent partir sans aucune vengeance. Voilà. Ah ben il y a eu des rencontres positives, oui, bon, même en Alaska où ils sont restés un mois, ils ont pu étudier pas mal de choses localement avec la population. À l'île de Pâques, ils sont restés très peu, un jour, guère plus d'un jour, mais c'est incroyable tout ce qu'ils ont fait comme observation. Et puis chaque fois, on apportait quelque chose. Bon, il y avait bien sûr ces objets de troc, mais aussi on essayait d'apporter au peuple visité, comme on disait, de nouveaux moyens de subsistance. Alors c'était quoi ça? Ben, on leur amenait des plantes, alors soit sous forme de plants carrément, puisqu'il y avait des caisses à bord dans lesquelles on avait appris des plantes, vous avez peut-être vu ce matin, ou on prenait des graines que l'on semait, ou on prenait des animaux vivants qu'on leur donnait. Par exemple à l'île de Pâques, on leur a donné, comme dit la Pérouse, des cochons, des chèvres et des moutons, et bon, mais bon, probablement qu'ils n'ont pas vécu très longtemps, ils ont dû être mangés rapidement. Voilà. Donc oui, il y avait toujours cet esprit d'apporter quelque chose pour essayer de varier la nourriture de ces peuples. Alors, l'esprit, c'est vrai, a changé à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Avant, qu'on partait pour s'enrichir d'abord. Hein, c'était chercher de l'or, les premiers navigateurs. Hein, puis Christophe Colomb, les Espagnols en Amérique, et les Espagnols dans le Pacifique aussi, d'ailleurs. Il y a eu des voyages à travers le Pacifique, bon, sans parler de Magellan, mais à la fin du XVIe siècle, 1567, je crois, Mendana est parti du Pérou, a découvert les îles Salomon, c'est lui qui les a appelées Salomon. Où se trouve Vanikoro? Ils appelaient Salomon parce que par allusion aux mines du roi Salomon, parce qu'il les pensait extrêmement riches. Donc il y a eu toujours cet enrichissement qui était derrière la tête des navigateurs, et puis quand on arrivait quelque part, on en prenait possession. Au nom du roi, quand les Espagnols sont arrivés à l'île de Pâques, c'est pas eux qui sont allés les premiers, c'était les Hollandais, en 1770, ils en ont pris possession, ils ont planté des croix, et ils ont fait signer un acte à des gens qui ont fait des signes kabbalistiques, et voilà, et ils ont appelé l'île à l'époque, ils lui ont donné un nom, un nom espagnol, et voilà, ça s'est passé comme ça. Or, La Pérouse, lui, s'est insurgé contre cette façon de faire. Il l'a écrit dans son journal, notamment, vous avez peut-être vu le texte au musée, je ne sais pas si vous l'a montré, il y est affiché. Il a dit que c'était complètement ridicule, cette idée de vouloir s'emparer de terre, où des gens ont vécu pendant des siècles, ont enterré leurs morts, ont travaillé, etc. Et c'était une idée totalement idiote et stupide. Et qu'on n'était plus à l'époque où... on faisait cela, et où on devait se plier à une religion, je ne sais plus comment, je ne me souviens plus exactement du terme, à la cupidité de la religion. Voilà. Parce que La Pérouse avait, c'était quelqu'un qui était vraiment dans les idées du XVIIIe siècle. Hein. Il était franc-maçon, comme étaient d'ailleurs beaucoup d'officiers de marine à l'époque. Il avait été très jeune, initié à une loge maçonnique de Brest, qui s'appelait l'Heureuse Rencontre.
Henri Colombier, président de l'association La Pérouse.
Donc cette association a été créée en 1983, mais à l'époque elle était liée avec l'association du Vieil Albi. C'est le docteur Amalric qui était... un grand amoureux de La Pérouse, disons, qui est à l'origine et de l'association et par la suite du musée. Donc, il a beaucoup insisté à l'époque auprès de la mairie pour que soit créé ce musée. Voilà, et donc le musée a vu le jour en 88 dans les locaux actuels où vous l'avez découvert ce matin. On a créé un comité scientifique et historique dans lequel figure le conservateur du musée de la marine. Deux conservatrices du patrimoine albigeois, Mme Devinck et Mme Benteux, des spécialistes de La Pérouse, comme l'amiral Bellec, dont on a maintenant, disons, quelques noyaux là, solides de personnes qui justifient quand même l'existence du musée. Et ce musée, d'ailleurs, actuellement, il y a un projet de rénovation complète de la scénographie du musée.
Nous avons entendu les voix d'une guide du musée La Pérouse, Madame Michèle Vaught, et du président de l'association La Pérouse, Monsieur Henri Colombier. Nous remercions chaleureusement les bénévoles du musée La Pérouse et tout particulièrement Madame Michèle Vaught et Monsieur Henri Colombier. Cette émission est réécoutable et podcastable sur le site de Radium à l'émission La Boîte à Musée.